Culture sans frontières, Magdalena Hrozinková.
Merci d'écouter Culture sans frontières. Saviez-vous que l'on peut traiter le bruit de la ventilation, par exemple, comme de la musique ? L'artiste sonore Eric Lacasa, formé à l'origine en histoire de l'art, a fait tout un CD à partir de ses enregistrements de la ventilation parisienne effectuée à l'hôpital européen Georges Pompidou, dans les couloirs de Radio France ou dans les toilettes de la Bibliothèque nationale. Eric Lacasa, venu récemment à Prague pour donner un concert improvisé en marge de l'exposition interactive Orbis Pictus, travaille depuis plusieurs années avec l'environnement sonore. Il a construit une approche musicale singulière à partir de ses recherches sur le terrain et sur la prise de son. Et Eric Lacasa est l'invité de cette émission. Vous inspirez plutôt, vous travaillez plutôt avec des sons urbains ou non urbains, les deux?
Personnellement, moi je travaille avec les deux, c'est-à-dire comme je vis à Paris depuis une vingtaine d'années maintenant, au départ je me refusais carrément à enregistrer ma ville.
Et pourquoi?
Simplement parce que j'avais décidé que la prise de son qui était intéressante l'était sans les voitures. Donc à partir du moment où j'entendais une voiture quelque part, ça m'empêchait de faire quelque chose. Ça m'empêchait de penser. Ça m'empêchait même d'écouter, enfin tout simplement d'écouter. Et puis ça a commencé, on m'a demandé quelque chose. Puis j'ai fait une émission de radio où j'ai dû vraiment écouter la ville. Et puis comme ça, j'ai fini par porter vraiment mon attention sur ce qui était mon environnement, c'est-à-dire la ville de Paris. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment monté en moi cette histoire de son urbain. Qu'est-ce que c'était? Comment ça fonctionnait? Et avec quoi? Quels étaient les objets? Et à partir de ce moment-là, la notion entre son urbain, son dit naturel, parce que ça ne veut plus dire grand-chose, ça me semblait plus pertinent du tout, et j'ai fini de mettre des frontières sur tout ça. Pour moi, c'était l'enregistrement, la captation. Donc, quel que soit le phénomène, c'est intéressant. Alors, c'est sûr que quand il n'y a pas de voiture, quand on est en pleine nature, les phénomènes vibratoires sont différents, quoi, c'est sûr. Mais en ville, il se passe des choses, des phénomènes vibratoires vraiment intéressants aussi.
Phénomène vibratoire, ça veut dire?
Par exemple, j'ai fait un projet sur les ventilations. Un jour, je rentre dans une salle de bain, dans la salle de bain d'un ami, et je me dis, mais c'est non seulement important, mais ça remplace le bruit de la ville. C'est-à-dire, c'est devenu le bruit des appartements modernes, c'est devenu le bruit de notre intérieur. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, mais ça m'intéresse, parce que c'est une question à la fois d'architecture. C'est-à-dire tout architecte se pose cette question, enfin, devrait se la poser, puisque c'est un problème acoustique. Donc les acousticiens sont en jeu dans cette histoire. Et après, il y a toute une foultitude de métiers qui sont liés à la ventilation. Et de plus en plus. Parce que maintenant, la ventilation, c'est pas simplement amener de l'air, c'est amener de l'air chaud ou froid, donc c'est plus du tout la même chose. Donc il s'agit vraiment d'un système de plus en plus gros dans le bâtiment, et pourtant, en France, on ne traite pas vraiment le problème, parce qu'on vit dans un pays tempéré, et on n'a pas forcément besoin d'une ventilation, comme dans les pays scandinaves, d'un double flux, avec air chaud, air froid, absolument stable. Voilà. Et en fait, j'en ai fait un projet comme ça, par exemple. Donc c'est à la fois un phénomène vibratoire, parce que qu'est-ce que c'est que le son d'une ventilation? C'est à la fois le flux d'air qui circule et qui arrive dans une bouche pas très bien nettoyée souvent, parce qu'elle s'encrasse et personne ne la nettoie. Donc ça, c'est plus ou moins venteux, mais ça ne ressemble pas à du vent puisque c'est continu, que ça ne fluctue pas. Mais parfois, le son fluctue, justement, parce qu'il y a tellement de poussière dedans que ça fluctue. Ou des fois, il y a du papier, ou des fois, etc. Ça met en jeu tout un système avant de tubes qui ressemble pratiquement à un instrument, puisqu'au bout, il y a quand même une pale qui tourne avec un ventilateur, quoi, et tout un moteur qui entraîne ça. C'est une espèce de grosse machinerie qui fait du vent, donc qui pourrait ressembler à la bouche d'un homme, qui, sauf que bon, en flux continu, évidemment. Donc j'en ai fait un CD, par exemple. J'en ai fait un CD, donc j'ai choisi une trentaine de ventilations, comme ça, que j'avais enregistré dans Paris, dans des immeubles à la fois récents, dans des immeubles publics, mais des lieux que tout le monde fréquente, genre les toilettes, souvent. J'aime bien. Il faut que ça soit quelque chose que tout le monde connaisse.
Donc, vous avez travaillé sur les ascenseurs aussi.
Oui, j'ai travaillé. Bah oui, bah pareil. En fait, là, c'est pour différentes raisons. Un jour, on rentre dans un ascenseur et puis on est frappé par le son qui émane de cet ascenseur parce que au lieu de faire presque rien, enfin, ce qu'on appelle un presque rien en France, au niveau sonore. Certaines fois, il vous parle. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. C'est complètement inintéressant, mais en même temps, il y a une espèce de dialogue qui commence, si vous êtes attentif à ça. Puis après, vous sentez que vous êtes dans une espèce de petite boîte qui tient sur des câbles, et il suffit que vous bougiez, vous commencez à jouer avec l'ascenseur, et là, vous comprenez qu'il y a tout un jeu instrumental derrière, quoi, possible. J'étais en train d'enregistrer dans un parc et il y avait un ascenseur dans un parc. Et au moment où je suis rentré dedans, il s'est mis à hurler. Mais hurler ! J'ai eu peur, mais carrément. Je me demandais ce qui lui arrivait. Les portes se sont fermées, puis elles se sont rouvertes. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je sors. Je suis resté dedans. J'ai appuyé sur le bouton et il s'est mis à hurler une deuxième fois. Et je suis resté dedans. Les portes se sont fermées. Il s'est ouvert. J'ai appuyé sur le bouton. Il s'est remis à hurler. Et j'avais mon enregistrement. Donc.
Sonore, comment trouvez-vous Prague par rapport à Paris, ou c'est trop tôt pour le dire?
Non, ce serait absurde de dire quelque chose. Je viens d'arriver.
Il faut combien de temps pour être dans une ville, pour la connaître au niveau sonore?
Il faut que je marche. Ça passe par plusieurs facteurs. Là, par exemple, je reviens d'Écosse. J'ai fait un projet sur 10 jours. On m'avait invité à faire une résidence où je devais faire justement une pièce avec le son de la ville. Donc c'était simple. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai acheté une carte topographique suffisamment précise pour qu'on voit les reliefs, qu'on commence à sentir comment la ville s'articule, comment elle a été construite, comment les maisons sont bâties. Enfin, on a toutes sortes d'informations à travers les cartes. Moi, j'adore les cartes en plus. La situation aussi par rapport aux éléments, s'il y a de la forêt, enfin, etc., etc. À Dundee, cette ville écossaise, il y avait la présence de la mer qui rentre dans les terres. Et c'est vraiment... Donc tout de suite, je savais qu'il y allait avoir du vent. Donc on peut imaginer déjà plein de choses. Et donc j'ai fait un travail donc, d'une semaine de prise de son. Puis après, j'ai composé quelque chose avec ça. Mais c'est vraiment en marchant dans la ville que j'ai commencé à sentir ce que c'était que la ville. Parce que j'avais vu, effectivement, que la ville était bizarrement construite, c'est-à-dire qu'il y avait un cœur historique, mais qu'elle avait l'air d'être aménagée maintenant pour les voitures. Et effectivement, quand on est dans la ville, c'est flagrant. Quand on commence à marcher, tout est organisé pour la voiture, très peu pour le piéton. Donc, effectivement, ça veut dire que ça va influer sur le son de la ville en lui-même.
Est-ce qu'il y a un son ou plusieurs sons que vous détestez et au contraire, quels sont les sons qui vous sont particulièrement agréables?
Ça, c'est des questions difficiles. Ça dépend de l'humeur, en fait. je sais que quand j'ai commencé la prise de son, pour moi c'était clair. Et il y avait des sons que je ne voulais pas entendre et des sons que je voulais entendre vraiment. Alors par exemple, quand je faisais une prise de son, pour moi, si je voulais écouter le son de la rivière, à partir du moment où il y avait un avion dans le ciel qui passait, j'arrêtais systématiquement. Ou un chien au loin, ou je ne sais quoi, une voiture qui klaxonne, ça coupait. Donc, en ce sens-là, j'avoue que j'avais effectivement classifié les sons de cette manière-là, par goût. Et de plus en plus, j'ai l'impression que je me suis trompé. Enfin, de plus en plus, j'ai l'impression que tout doit être accepté, parce que ça fait partie de notre environnement. Quand j'écoute l'environnement, au sens large du terme, effectivement, je vais focaliser sur certains sons qui vont m'intéresser plus que d'autres, mais je ne peux pas dire que j'ai des goûts particuliers. J'ai beaucoup enregistré l'eau, par exemple. L'eau, le vent, l'eau particulièrement, dans toutes les formes possibles, de la goutte d'eau dans une grotte jusqu'à la mer déchaînée, ça m'a vraiment intéressé, quoi. Tous les phénomènes qui touchaient l'eau, mais tous les phénomènes qui touchent les éléments en général m'intéressent. Mais de plus en plus, j'avoue que je suis étonné par le monde industriel, par exemple. J'ai aussi découvert tout un pan de cette culture industrielle, à tous les niveaux d'ailleurs, en ayant la chance de temps en temps de rentrer dans des usines. Et là, on est saisi par l'ampleur, parfois la beauté du son. C'est de l'émotion pure, quoi.
C'était l'artiste sonore Eric Lacasa et le groupe Check Tata Boys dans Culture Sans Frontières. Merci de l'avoir suivi et très bonne écoute du magazine touristique.